Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Bonjour chez vous et soyez les bienvenus à cet énième numéro de Panorama des régions. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sensible, les exploitations et abus sexuels dans le milieu humanitaire. À cet effet, la région de Bounkani a abrité une formation donnée par le Centre international de formation humanitaire, CIFH. Témoin de cette activité, Jérôme Kouassi pour Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Dans le secteur humanitaire, toute relation sexuelle avec les bénéficiaires vulnérables, en faisant inadéquatement usage de sa position d'influence, est interdite. Et sur la question, il faut bien former les travailleurs humanitaires. Krakoko Bélanjac, directeur exécutif de l'ONG Les Flamboyants.
Il y a des bornes qu'on ne dépasse pas. Il y a des relations avec ces populations vulnérables qui sont vraiment en tolérance zéro. Et c'est pour tout cela que nous voulons effectivement former nos acteurs. Nous voulons former notre équipe à l'effet vraiment d'être à la hauteur du service à donner.
Quel est le comportement attendu des travailleurs humanitaires qui auront à travailler dans le monde rural qui regorge de nombreux réfugiés vulnérables?
Prisca Gbeli, de l'ONG Étoile du Boucan. Nous devons bien nous comporter, nous ne devons pas abuser des personnes vulnérables. Si le bailleur de fonds apprend que nous sommes mal comportés, il peut mettre fin, suspendre même le projet aussi.
Eric Vivian, stagiaire à l'ONG Étoile du Boucan. Pas de cesse avec les enfants et doit dénoncer leurs collègues qui sont fautifs.
Kofi Kwame Boatene, le directeur général du Centre international de formation humanitaire, facilitateur de l'atelier.
Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Si c'est votre enfant, si c'est votre proche, vous allez dire non, vous allez vous culpabiliser. Si je fais ça, c'est pas bon, il va perdre son emploi, c'est ceci, c'est cela. Non, vous n'allez pas dire. C'est parce que c'est pas vous qui êtes directement touché que vous pensez que vous ne devrez pas dire. Mais en ce moment, vous n'êtes pas solidaire de la personne qui en souffre.
Dans le secteur humanitaire, l'inconduite sexuelle est proscrite. Jérôme Kouassi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
Merci à vous Jérôme. Je rappelle pour nos auditeurs qui nous prennent en marche maintenant que vous suivez Panorama des régions sur Radio de la Paix, 96 FM à Abidjan, 827 sur Canal et www.radiodelapaix.ci sur le web.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.
Maintenant, nous allons creuser un peu plus sur l'activité de formation donnée par le Centre international de formation humanitaire, CIFH, avec son DG, Kofi Boatelin. Bonjour Monsieur Kofi et merci de marquer votre disponibilité pour cet entretien.
Merci.
Pouvez-vous nous présenter brièvement le Centre international de formation humanitaire et sa mission principale?
Merci Monsieur Mel. Merci à la radio de la paix de Côte d'Ivoire qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur le Centre international de formation humanitaire. Alors, comme le nom l'indique, Centre international de formation humanitaire, ce que nous voulons que vous reteniez, c'est un cabinet de formation, de recrutement de personnel ou d'accompagnement des candidats à l'obtention d'un poste de travail. C'est un cabinet qui offre des services en études, conseils. Par exemple, on peut aider une collectivité territoriale comme un conseil régional et même une entreprise et même un service public à se doter de ce que nous appelons activité compétence. On peut faire des études, accompagner tous les services à se doter des outils modernes de gestion de ressources humaines, d'effectifs et de compétences. C'est ça l'étude conseil. Mmh. On peut aussi la recherche, comme la recherche scientifique. À tout égard, si par exemple une structure voudrait entamer un travail de recherche avant de développer un projet, le cabinet a compétence avec son pool d'enseignants-chercheurs qui interviennent pour mener très bien ce travail de recherche. Et il y a ce que nous appelons l'assistance multiple. L'assistance multiple qui consiste à accompagner des services publics, privés, humanitaires, bien entendu, à développer leurs projets. En clair, on peut une structure comme ce véhicule de Côte d'Ivoire pourrait dire qu'il a besoin d'un cabinet pour développer une formation. On peut l'aider à piloter ça de façon technique, à le réaliser en identifiant le consultant, en examinant avec bienveillance les thèmes pour voir si ces thèmes-là sont adéquats, adaptés à leur objectif, mais surtout aux personnes ciblées pour la formation. Et bien entendu, il y a tout ce que nous appelons tout produit divers. Il faut dire que le centre a vu le jour dans le courant du mois d'octobre 2022, sur concertation d'un ensemble de travailleurs humanitaires qui ont eu au moins 25 ans de service dans le domaine et qui ont décidé sérieusement de mettre tout ce qu'ils ont comme expertise, comme expérience ensemble pour faire avancer la profession humanitaire.
Donc on comprend que vous avez un large éventail d'activités et fort de cet éventail, vous avez initié une formation contre les abus sexuels dans le domaine humanitaire à Bouna. Quelles ont été les raisons principales qui vous ont poussé à donner cette formation?
Ben, vous savez, monsieur Mel, aujourd'hui, l'actualité, elle est là pour témoigner de ce qui se passe dans la région nord-est, précisément la région du Bonkani, qui est sous la menace djihadiste depuis ces 5 dernières années, qui est une réalité. La preuve, c'est que cette région compte aujourd'hui un peu plus, si je ne m'abuse, un peu plus de 20 000 demandeurs d'asile en provenance du Burkina. Donc, tous ces demandeurs d'asile qui sont sur le territoire ont amené, par exemple, le HCR à mettre un bureau là-bas. Les acteurs humanitaires sont là-bas aujourd'hui et ils composent avec les structures locales pour faire passer les réponses humanitaires en termes de protection et d'assistance à ces populations qui demandent cette aide-là. Alors, il faut dire que la prévention contre l'exploitation et les abus sexuels est une thématique qui est exigé par la plupart des bailleurs de fonds à tout partenaire connaître le B.A.B.A. afin de ne pas abuser de ces personnes vulnérables qui ont besoin de l'aide et de l'assistance. Donc, c'est fort de ce que la région du Bonkani est aujourd'hui une région humanitaire en termes de protection que nous avons voulu outiller certains acteurs à ce qu'ils puissent travailler en évitant cette inconduite sexuelle.
Et du coup, quels sont les principaux objectifs que vous visiez en initiant cette formation?
L'objectif principal de cette formation était de permettre aux agents de l'ONG Les Flamboyants, mais il n'y a pas eu que les staffs de l'ONG Flamboyants, mais il y a eu les staffs de l'ONG Étoile du Bonkani, et les staffs de l'ONG Notre Grenier, la section du Bonkani, donc en quelque sorte qui travaillent en réseau. Donc, c'est trois structures qui constituent ce qu'on appelle le réseau des ONG et associations de la région du Bonkani. Sous le lit de l'ONG Les Flamboyants, ont bénéficié de cette formation dont l'objectif principal était de leur permettre d'avoir les connaissances essentielles de base sur ce que c'est l'exploitation et les abus sexuels et comment prévenir et comment prendre les dispositions dans l'exécution d'un mandat humanitaire à ne pas commettre ce genre d'actes.
De manière spécifique, qu'est-ce qui a été développé pour répondre aux réalités du Bonkani et des contextes humanitaires locaux?
Il y a eu plusieurs modules qui ont été traités. Il y a eu d'abord ce que nous appelons l'induction sur la PCAS, comme je vous l'ai dit. L'induction, c'est un peu donner le B.A.B.A. C'est quoi l'exploitation? C'est quoi l'abus sexuel? C'est quoi le harcèlement sexuel? Quelle est la différence entre une violence basée sur le genre, etc. Il fallait qu'on arrive d'abord à permettre à l'ensemble des participants de savoir ce que c'est. Ensuite, au-delà de l'induction sur la PCA, on a traité du système de réponse au signalement d'un cas d'exploitation et d'abus sexuel. Après, on a passé en revue les mécanismes de feedback et de plainte lorsqu'il y a une situation de cas d'exploitation et d'abus sexuel. Et comme je l'ai dit, on a travailler beaucoup plus sur la différence entre une violence basée sur le genre et une exploitation et les abus sexuels. Mmh. Voilà. En plus, on a parlé aussi du lien entre la prévention contre l'exploitation et les abus sexuels et les partenaires ou les fournisseurs. Par la suite, on a terminé à un module qu'on appelle « Comment dire non à l'inconduite sexuelle ». Donc, il y a eu tout un paquet de modules qui ont permis, je crois, à l'ensemble des participants d'être bien outillés, d'avoir la bonne connaissance sur l'exploitation et les abus sexuels qui pourraient compromettre toute une opération humanitaire même dans un pays.
Et en ce sens, est-ce que vous avez eu écho de cas d'abus sexuels dans le milieu humanitaire dans le Bonkani ou ailleurs en Côte d'Ivoire, chose qui aurait pu motiver justement votre formation?
Non, ce n'est pas que nous avons eu vent d'un cas quelconque à gauche, à droite. Non, ce n'est pas le cas, mais cela ne veut pas dire que des cas ne pourraient pas exister. Voilà, mais nous n'avons pas fait d'investigation pour en savoir davantage. Nous sommes focalisés sur le fait que cette région est confrontée à cette menace djihadiste avec tout ce que ça comporte comme effet en termes des besoins de protection humanitaire. Et comme la prévention contre l'exploitation et les abus sexuels est devenue aujourd'hui un élément essentiel pour une ONG de signer un partenariat avec un bailleur de fonds avant que les fonds ne soient mis à sa disposition. Donc nous avons voulu anticiper des choses. Au-delà d'anticiper les choses, nous avons voulu que ces jeunes qui travaillent maintenant dans l'humanitaire, fort de notre expérience nationale et internationale, il serait intéressant qu'on leur donne les connaissances utiles afin qu'ils prennent conscience de ce que c'est la gravité d'être auteur d'une exploitation ou d'abus sexuels en tant que travailleur humanitaire.
Quels sont les résultats attendus à l'issue de cette formation?
Les résultats, dans un premier temps, seraient que nous les avons évalués. Hein. Après la formation, on a essayé de faire le post-test. Et le post-test, avec les questions qui ont été répondues, nous ont permis de voir que celui qui a moins compris avait une note de 13,5. Et celui qui a le plus compris avait une note de 18. Donc, ce qui veut dire que pour des participants à une formation qui n'ont jamais eu connaissance de cette thématique et qui arrivent au terme d'une formation à avoir une note minimum de 13,5, une note maximum de 18, si on fait la synthèse, on va se retrouver autour de 15 ou 16, nous avons estimé que déjà, notre objectif est de leur permettre d'avoir la connaissance de base est acquis. Ce que nous avons retenu aussi, c'est qu'ils prennent conscience de la gravité s'ils commettent un acte d'abus sexuel qui pourrait compromettre leur propre carrière dans le milieu humanitaire. Nous avons eu l'engouement qui a suscité, l'applaudissement qui a suscité à la fin de cette formation, donc qui voudrait dire que ces participants ont pris conscience de ce que c'est essentiel pour eux dans le travail humanitaire d'avoir le comportement honorable qu'il faut pour que, bien entendu, les partenaires qui accompagnent l'action humanitaire puissent collaborer correctement avec eux aussi.
Aujourd'hui, avec les ONG qui ont pris part à cette formation, est-ce que le contact est maintenu à l'effet de vous enquérir de l'état ou de mesurer l'impact de votre formation dans la région après sa mise en œuvre?
Tout à fait, tout à fait. Puisque nous avons signé une convention qui assure le lead du réseau des ONG de la région du Bonkani.
L'ONG Les
Flamboyants.
Nous
avons convenu, oui, Les Flamboyants, oui. Ce qui a été arrêté comme recommandation essentielle pour les trois ONG, c'est chaque ONG doit se doter d'un point focal chargé des questions d'abus et d'exploitation sexuelle. Il doit se doter d'une boîte à suggestions où les populations qu'ils touchent peuvent venir déposer des messages. Vous allez me dire, mais est-ce que tout le monde le peut parce qu'il y a des populations analphabètes? Oui, il y a les contacts qui ont été donnés et puis il y a des outils, comme je disais dans le module, les mécanismes. Comment une personne analphabète, victime d'un abus sexuel, comment il peut saisir le point focal pour poser plainte afin qu'une enquête soit enclenchée pour pouvoir vérifier les faits et au fin de prendre les mesures nécessaires de discipline pour corriger l'agent en question qui aura commis ça. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises, qui vont être mises en place, et nous avons convenu et à chaque trimestre, donc déjà ce que nous avons fait dans le mois de juin ou de juillet, nous devrons nous retrouver pour voir comment est-ce que les agents se sont comportés vis-à-vis d'eux-mêmes en tant qu'acteurs, s'il n'y a pas eu d'harcèlement sexuel, et vis-à-vis des populations vulnérables qu'on doit servir, est-ce qu'il y a eu des situations ou pas. Donc, il y a ça. Et en ce qui concerne les dirigeants même de ces ONG, nous avons demandé qu'ils se dotent d'une politique de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels qui doit se traduire par le renforcement des capacités le régulièrement possible. Ils doivent mettre en place des codes de conduite, chaque ONG, en ce qui concerne son mandat, un code de conduite qui doit être signé par tout agent qu'ils emploient, que ce soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, ou même si c'est pour une activité ponctuelle. Il faut que cela soit ainsi, et il faut que leurs partenaires, ceux que nous avons appelés les fournisseurs ou les autres avec qui ils doivent contracter pour travailler, il faut que ce code de conduite soit également signé par ses partenaires afin de vraiment prendre toutes les mesures efficaces pour ne pas que dans la chaîne de l'activité humanitaire, un des membres arrive à commettre un acte d'exploitation et d'abus sexuel. Voilà un peu ce qui est ressorti au terme de cette formation et les mesures qui ont été prises.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la formation, est-ce que vous avez rencontré des défis? Si oui, lesquels?
Oui, des défis pour une formation, il y en a toujours. D'abord, la question culturelle qui apparaît chaque fois en termes de formation. Vous savez, là où on parle de questions d'exploitation, d'abus sexuels, les questions d'âge, par exemple, l'âge requis pour la sexualité, etc., c'est des choses qui reviennent couramment dans une région comme le Boukwani où la culture, disons, les présentaires socioculturels sont encore de mise. Et c'est essentiel, les populations qui sont en quête aussi d'asile dans notre pays ont leur culture, qui viennent. Donc, on pense qu'on peut marier une fille à 13 ans, à 14 ans, parce que la culture permet, mais dans le travail humanitaire, ce n'est pas permis. Donc, dans les échanges, ce qui nous a beaucoup plu, les participants ont ressorti cette difficulté sur le terrain auquel ils sont souvent confrontés, parce qu'eux aussi, ils travaillent avec des points focaux qui sont désignés sur les sites par l'autorité qui représente, mais qui parfois sont complices de ces choses. Comment maintenant véhiculer le message pour qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas le faire? Et surtout, quand on a faim, si on est dans des situations difficiles, marier sa fille à bas âge, ça n'est pas. On ne trouve pas ça comme une infraction au niveau humanitaire, contrairement aux règles de fonctionnement, aux principes de fonctionnement, aux principes humanitaires, voilà, etc. Donc, c'était les défis auxquels les participants disent être confrontés, mais nous leur avons montré la voie à suivre, nous leur avons dit comment il faut sensibiliser les parents à ce qu'il n'y ait pas ce genre de situation au risque d'amener les partenaires qui soutiennent l'assistance et la protection à couper leur appui, et ça va encore créer des complications dans les réponses à leur apporter. Donc, en résumé, le défi essentiel en matière d'exploitation et d'abus sexuels est lié aux présentaires socioculturels sur le terrain.
Mais vous arrivez à le surmonter.
Tout à fait. Mais c'est pour cela que la formation était la bienvenue, parce que quand j'ai dit que c'est toute une chaîne, je vous donne un exemple.
Allez-y.
Si l'ONG Flamboyant traite avec une association locale dans un village X, il va passer par cette association pour développer une activité auprès des demandeurs d'asile. Si cette association-là, le président, entretient une relation avec une fille demandeur d'asile de 12 et 13 ans, c'est un cas grave confirmé d'exploitation et d'abus sexuels. Et ça, si c'est confirmé, c'est un exemple que je donne, mais le partenaire peut arrêter le financement. Vous comprenez?
Oui.
Et donc, c'est pour cela que j'ai dit que la formation est venue à point, parce qu'il a fallu avoir cette formation pour que ces acteurs-là expriment. Et ils ne savaient pas que c'est des choses qui sont graves et qu'il faut les éviter. Mais vous imaginez si des partenaires viennent pour évaluer ou auditer leur projet et ils se rendent compte auprès des populations qu'il y a des enfants qui sont abusés. Vous voyez ce que ça peut faire même pour l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça peut complètement mettre fin à une partie de la coopération. Parce que l'exploitation et les abus sexuels, c'est tolérance, je vous dis, auprès des partenaires de développement, des partenaires techniques aussi de l'action humanitaire.
Qui est reconnu comme victime d'abus ou d'exploitation sexuelle? Dans quelle tranche d'âge? Est-ce qu'il y a un intervalle précis?
C'est toute personne qui est vulnérable et qui doit faire l'objet d'assistance. Donc ça peut être les enfants, mais ça peut être les personnes adultes. L'exploitation et les abus sexuels sont commises en règle générale par un agent humanitaire. C'est la différence avec la violence basée sur le genre. C'est-à-dire une personne censée apporter une réponse, une aide, une assistance à une personne vulnérable qui est dans le besoin, et c'est cette personne-là qui s'en va abuser encore d'elle ou l'exploiter sexuellement. Vous comprenez?
Oui.
Donc, ça peut toucher toute personne qui est vulnérable et qui est en besoin. C'est le cas, par exemple, des demandeurs d'asile qui sont dans la région du Bonkani et qui atteignent aujourd'hui plus de 20 000. Et c'est pour cela que nous sommes partis dans cette région pour travailler avec les acteurs humanitaires locaux afin de les préparer à éviter d'arriver à ce cas.
Pour revenir au partenariat, est-ce que vous avez eu des partenaires justement ou des acteurs pour renforcer l'impact de cette formation sur le terrain, à part les ONG que vous avez formées?
Oui, les conseils généraux dans nos pays aujourd'hui, c'est eux qui ont en charge le développement et le social. Ce n'est plus dans la main d'un préfet de région ou d'un préfet de département. C'est eux. Mais elles aussi, ils travaillent avec partenaires techniques et financiers. Par exemple, on n'a pas pu approcher le conseil régional du Bonkani, mais ça est au programme. Mais on a déjà, je peux vous partager des preuves, on a travaillé comme ça avec le conseil régional du Boklin, à ce endroit où on est allé échanger lors d'une mission avec le directeur général et certains de ses partenaires pour leur montrer la nécessité de travailler en collaboration, en partenariat avec nous, parce que nous sommes le cabinet au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous faisons partie des cabinets qui ont l'expertise pour les accompagner dans le développement des projets humanitaires à travers lesquels ils assistent aussi les populations. Voilà. Les mairies également, nous sommes favorables. On a déposé, par exemple, dans le Bonkani, un courrier d'offre de service au conseil régional, à la mairie de Bouna, à la mairie de Doropo, à la mairie de Teigny, mais on n'a pas encore de suite. Mais on souhaite vraiment que ces collectivités territoriales-là comprennent la nécessité de travailler en partenariat avec nous. Pour l'instant, nous nous focalisons beaucoup plus sur la région du Bonkani, mais on veut aussi, et on a demandé aux ONG que nous avons formées s'ils peuvent nous aider à toucher les régions du Tchologo, parce que la région du Tchologo est aussi touchée par cette menace djihadiste. Vous le savez bien que moi, il y a des personnes demandeurs d'asile également dans ces zones. Donc nous, on veut aller un peu plus loin avec les acteurs étatiques via les collectivités territoriales et les ONG locales, parce que de plus en plus aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers qui donnent les moyens aux ONG demandent d'appliquer la localisation, en un mot comme en mille, qui consiste à passer par les structures locales pour apporter la réponse aux besoins humanitaires. Ces structures locales-là ont besoin d'être formés sur la notion même de l'action humanitaire. Et dans cette notion de l'action humanitaire, les concepts de base figurent bien entendu l'exploitation et les abus sexuels qu'il faut prévenir.
Monsieur Kofi, nous arrivons au terme de cet entretien. Mais avant, en tant qu'initiateur du projet de formation, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux travailleurs humanitaires et aux communautés qui ont bénéficié de cette formation?
Merci beaucoup pour ce mot de fin. Mais je voudrais d'abord que vous reteniez que, avant de m'adresser aux acteurs humanitaires, souffrez que je dise un mot. Le Centre international de formation humanitaire est d'abord créé pour promouvoir et vulgariser la profession humanitaire. Moi, j'ai commencé comme un alphabétiseur. J'ai commencé comme animateur en alphabétisation à la paroisse Saint-Marc de Toi-Rouge de Yopougon à l'époque, dans les années 97, pour être aujourd'hui un travailleur humanitaire au niveau international. Donc, c'est une profession comme bien d'autres. C'est essentiel de le savoir. Notre profession n'est pas bien connue, ou du moins, les gens ne savent pas ce que c'est. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous allez voir des travailleurs du privé comme du public quand ils sont à la retraite, ils vont vous approcher pour dire « Est-ce qu'on peut avoir des petites choses à faire avec vous ?» Non, le milieu humanitaire n'est pas un milieu où on vient pour arrondir des fins du mois. C'est une profession comme bien d'autres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui nous approchent, qui veulent faire de l'humanité. Donc, c'est pour cela que le centre a vu le jour, pour que les jeunes viennent se former pour aller exercer sans compromettre et sans se compromettre. Vous vous compromettez si vous arrivez à ne pas suivre la conduite du travail humanitaire. Si vous commettez, par exemple, un acte d'abus et d'exploitation sexuelle, ça peut mettre fin à toute une opération humanitaire dans un pays. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Donc ça, pour exercer cette profession-là, il faut aujourd'hui connaître le B.A.B.A. de l'activité humanitaire. Donc ça, c'est essentiel que je vous le dise. Maintenant, les travailleurs humanitaires, c'est de toujours avoir la conduite qu'il faut, parce que quand vous êtes dans une opération humanitaire, ce qu'on vous demande d'éviter, c'est toutes sortes d'inconduites, la fraude, mais particulièrement l'inconduite sexuelle. Quand vous en commettez, c'est tolérance zéro. Vous perdez votre emploi, vous êtes licencié. En tout cas, quand il y a les preuves confirmées et avérées, vous mettez fin à votre contrat de travail. Mais par-dessus tout, vous voyez que si vous commettez ça, l'opération, comme je l'ai dit, peut s'arrêter. Et donc, vous compromettez la suite de l'opération humanitaire, là où c'est en train d'être mené. Donc, il faut vraiment être discipliné. Il faut être rigoureux. Il faut comprendre que si on veut réussir une carrière dans le milieu humanitaire, il faut se passer de tout ce qui est inconduite de quelque nature que ce soit. Voilà un peu ce que je vais dire. Et ça, je le dis à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs maintenant qui veulent embrasser ce métier. Et comme je vous le dis, c'est pour cela qu'on est allé dans le Bonkani, parce que la plupart des jeunes sont des débutants. Ils sont en début de carrière, 5 ans, 6 ans, voire même moins pour certains. Donc pour nous qui sommes déjà leurs aînés, c'est un devoir pour nous de les encadrer, de les accompagner, de leur donner la bonne information, de leur donner la bonne connaissance sur la profession humanitaire afin qu'eux aussi ils puissent réussir leur carrière et aller plus loin pour assurer la relève que nous allons leur léguer demain.
Merci beaucoup, M. Kofi. Nous avons sur nos antennes une émission qui se consacre justement à l'action humanitaire. Elle s'appelle Humanitaire, elle est présentée par Sonia Nzian. Certainement qu'on va établir le contact pour que vous puissiez mieux communiquer sur vos actions dans cette Lucane qui est dédiée à l'action humanitaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution à Panorama des Régions.
C'est nous qui vous remercions, M. Mel. Et bon après-midi à vous.
Merci à vous également.
Radio de la paix, la voix de la diversité.
Voilà, c'est la fin de Panorama des Régions pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour un numéro de Panorama des Régions sur Radio de la paix. Au revoir.
Panorama des Régions. Panorama des Régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.